nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bonjour, nous sommes ici en compagnie d'Olivier Germain-Thomas au Festival de Fès, qui est, on le sait bien, un docteur en philosophie, donc spécialiste de la symbolique de l'art bouddhique en Inde, également écrivain, chroniqueur et ancien producteur sur France Culture, également auteur d'un nombre de livres considérables, dont le dernier Bénarès Kyoto, dont vous pourriez nous dire quelques mots pour introduire cette interview, et puis nous allons aborder le thème du voyage. Donc votre dernier livre, pourquoi, quel est le thème, et nous dire deux, trois mots, s'il vous plaît.
Donc il y a des années, je crois 20-25 ans, j'avais accompli par voie terrestre un voyage, c'était l'époque où ça se faisait assez, un voyage depuis la France jusqu'en Inde, uniquement par voie terrestre, à travers donc l'Iran, l'Afghanistan, on pouvait le traverser encore, la passe de Khyber, tout ça, pour sentir les paysages, voir les choses, voir les visages. Et je m'étais dit, puisque j'en ai encore la force et que ce goût du voyage m'habite totalement, corps et âme, je m'étais dit que ce serait intéressant de partir là où j'étais arrivé, c'est-à-dire de l'Inde, et de poursuivre encore vers l'Est. Donc, il y a quelques années, j'ai repris de bonnes chaussures, un sac à dos, et je suis parti depuis l'Inde jusqu'à Kyoto. Donc, j'ai intitulé cela Bénarès, qui est le symbole d'une très grande ville sacrée en Inde, jusqu'à Kyoto, qui est une des plus belles villes et très liée à la fois au bouddhisme et au Shinto. Et j'ai accompli tout ce voyage uniquement par voie terrestre et maritime pour sentir les différences de culture, comment elles évoluent, pour sentir la terre, voir les nuages et traverser bien évidemment quelques épreuves. Et ce que je fais dans mes livres, j'essaie de mêler plusieurs éléments. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le récit de voyage, il y a en même temps des éléments d'imagination, quelquefois un peu de philosophie, essayer de faire comprendre quand même les grandes lignes des cultures que je traverse. Et puis, si c'est possible, pourquoi pas, des petits dialogues un peu ironiques, de mettre un peu du pétillant, un peu de champagne dans tout ce récit. Et ensuite, le grand travail sur un plan littéraire est un travail de composition.
Est-ce que c'est important pour vous d'aller voir ailleurs et l'ailleurs ?
Vous savez, l'ailleurs, il est à l'intérieur de soi. Au plus profond de soi, il y a de l'ailleurs. Ça, tout le monde peut vous le répondre. Mais oui, oui, j'ai cette curiosité depuis que j'ai découvert, grâce à une famille qui m'a ouvert au monde extérieur, j'ai cette curiosité d'aller voir ailleurs. Alors au début, cet ailleurs était dans les cultures européennes, celle de ma propre famille, donc l'Italie. Je me souviens, la visite du forum avec ma mère, qui était une amie, qui était latiniste, donc j'étais très sérieux dans la culture humaniste. Et puis arrivé à l'âge des choix personnels, j'ai décidé de pousser une porte plus loin, ça ne correspondait pas à une tradition familiale, donc d'aller vers l'Inde, d'abord pour des raisons universitaires que vous avez citées, et ensuite de sentir l'Inde physiquement, sans sensuellement, sa terre, sa lumière, les regards, la beauté des femmes. J'avais 25 ans. Et puis ensuite, je suis allé encore plus loin. C'était le Japon. Ensuite, c'était la découverte de l'Asie du Sud-Est. Et puis, il y a quelques années, toute la traversée de la Chine en train. Ça m'intéressait de voir des parties de la Chine où on n'a pas l'habitude d'aller. Et j'ai pensé que le voyage en train était le meilleur moyen. Et là, récemment, il y a juste un mois et demi, je viens de découvrir le Cambodge. Donc, il y a le site d'Angkor, qui est un site absolument extraordinaire. Mais ce n'est pas ça qui m'a le plus fasciné. Ce qui m'a le plus fasciné, c'était d'aller à moto. Enfin, c'était un Cambodgien qui conduisait la moto. J'étais derrière lui, dans des routes de terre, vers des temples qui sont encore au milieu de la jungle et qui sont encore couverts de lianes et d'arbres, dans des endroits Indiana Jones, si vous voulez, si ça n'est pas trop prétentieux, dans des endroits où on a l'impression que vibre encore l'aventure, le mystère, où il n'y a pas encore de touristes. Et là, c'est encore possible au Cambodge.
On sait que le voyage devient de plus en plus facile, on voyage de plus en plus. Vous avez une notion apparemment un peu différente de cette façon-là de voir peut-être le voyage. D'où vous vient ce goût du voyage, un tel goût du voyage ?
Pousser des portes fermées. Le goût de ce qui échappe, c'est-à-dire essayer de découvrir quelque chose que l'on ne connaît pas. Ça ne veut pas dire que je connais bien ma culture, mais je crois au bout d'un certain temps en avoir fait un peu le tour et pousser la porte d'une culture aussi étrange que celle de l'Inde pour nous, essayer de comprendre de l'intérieur en vivant dans des monastères ce qu'est le bouddhisme, au Japon en vivant dans des sanctuaires shinto, tout cela élargit, me semble-t-il, la conscience. Mais il y a autre chose, quand même. Je pars avec des petits carnets. Je note des petites phrases et ça donne des livres. Alors, ça n'est pas complètement désintéressé.
Le bouddhisme vous fascine énormément. Pourquoi ?
Je reste chrétien et j'ai essayé de transmettre ces valeurs si profondément spirituelles et humanistes à mes enfants. Mais j'ai trouvé, dans les périodes de doute que j'ai traversées dans ma vie, j'ai trouvé à travers le bouddhisme la possibilité de concilier la non-réponse sur l'existence ou la non-existence de Dieu, qui m'habite depuis l'âge de 17 ans, de concilier cette non-réponse avec néanmoins une recherche spirituelle d'ordre intérieur. Parce que comme vous le savez, le Bouddha refuse de répondre à la question « Dieu existe-t-il ou pas ?» Le sacré existe, la possibilité d'épanouir en soi des valeurs spirituelles existe, mais nous ne sommes pas capables de répondre à la question ontologique essentielle de l'après. Et ça m'a tout à fait convenu.
Vous allez continuer les voyages ?
Oh oui, oui, je veux découvrir Borobudur, je veux aller traverser ce que je n'ai jamais fait. Je suis allé plusieurs fois aux États-Unis, mais je n'ai jamais traversé d'est en ouest par bus ou voiture ou moto, donc j'ai envie de cela, j'ai envie de découvrir l'Amérique latine. Peut-être pas ni la Lune ni Mars, c'est vraiment trop loin, mais sur Terre, oui, il en reste beaucoup.
Vous intervenez à Fès sur Marco Polo en Chine, de quelques énigmes autour de son aventure. Vous pourriez nous donner un avant-goût de votre conférence, peut-être une énigme ?
Alors, il y a beaucoup d'énigmes. C'est les raisons pour lesquelles il est parti avec son père et avec son oncle. Très souvent, les historiens considèrent qu'il est parti uniquement pour des raisons commerciales. Donc, citoyen de Venise, Venise était la cité commerciale la plus puissante au XIIIe siècle. Je ne le crois pas. On ne doit pas risquer sa vie, il l'a risqué 10 fois de suite. Il est tombé malade, il a traversé des déserts, les déserts de Gobi, les plus chauds du monde. Il a traversé des montagnes, les montagnes de Pamir, où il était à moins 20, moins 30, moins 40, uniquement pour faire du commerce. De toutes les façons, pour le commerce, il aurait pu très bien s'arrêter avec la Perse, qui était un pays très riche à l'époque, et qui pouvait commercer à travers le détroit d'Ormuz. Des bateaux partaient ensuite vers le Proche-Orient et pouvaient gagner Constantinople et gagner Venise. Donc il y a autre chose, il y a certainement le goût de l'aventure. Donc ça, c'est un goût extrêmement puissant, et il y a encore plus. Et c'est une question géopolitique très intéressante. La Chine était tenue par un empereur, un homme génial, Kublai Khan, qui tenait un pays qui allait depuis la Corée jusqu'à la Turquie actuelle, le plus grand empire du monde. Et il se trouve que les Mongols avaient menacé l'Europe. Mais ensuite, les Mongols avaient quitté l'Europe après avoir failli détruire Budapest et encercler Vienne. Et les Mongols maintenant s'attaquaient aux musulmans. Or, les royaumes francs de Terre Sainte étaient menacés par les musulmans. Donc il y a eu l'idée, à la fois chez l'empereur d'Allemagne, chez le pape de l'époque, et chez le roi de France, Saint-Louis, d'essayer d'avoir une alliance avec les Mongols pour prendre les musulmans à revers. Et je pense, mais c'est même une certitude, puisque le père de Marco Polo avait dans sa poche une lettre du pape pour le grand Mongol. Donc je pense que derrière cette sorte de couverture de voyage commercial, il y avait aussi un enjeu géopolitique et un enjeu militaire considérable. Et c'est pour ça d'ailleurs que Marco Polo est resté très longtemps à la cour de l'empereur de Chine. Et il y a encore une autre raison, une autre énigme en quelque sorte. C'est le lien qu'il y a pu y avoir entre cet homme plus puissant qu'Obama, il faut voir ce qu'il dirigeait, et ce jeune Vénitien qui est arrivé là-bas à l'âge de 24 ans. Je pense, je n'ai pas de documents, c'est juste une supposition, après avoir vécu pendant en quelque sorte 3 ans, avec lui en quelque sorte, pour écrire un livre qui va sortir en octobre 2010, je pense qu'il y a eu un lien affectif entre ce vieil empereur et ce jeune Vénitien. Et c'est ce qui explique aussi les responsabilités que Marco Polo a pu avoir en Chine.
Merci beaucoup, Monsieur Olivier Germain-Thomas, pour ces explications. Et nous allons écouter cette conférence grâce à notre partenariat avec Synapse. Je rappelle que vous êtes l'auteur de nombreux livres, dont le dernier, Bénarès Kyoto, qui sort en folio Gallimard. Voilà, je vous remercie.